Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, presque bonsoir, puisque le soleil disparaît de plus en plus tôt à notre horizon valdoisien. Nous voici à nouveau ensemble pour une petite heure entre chien et loup, devant mille et un chemins ouverts, que nous empruntons tour à tour depuis des mois et des mois. Et nous sommes bien sur IDFM 98 avec Francky, notre technicien, que je remercie d'avance. Nous partons d'abord aux portes de la Normandie, dans un joli village qui ressemble à un jardin à ciel ouvert, où a vécu pendant près de 40 ans un peintre célèbre dans le monde entier, Claude Monet. Nous sommes bien sûr à Giverny, en terre impressionniste. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à une compagnie de théâtre plutôt itinérante qui se pose ici et là en région parisienne et, à partir d'expériences en immersion dans des lieux collectifs, propose de courtes fictions réalistes, humoristiques et sensibles. Vous verrez ça tout à l'heure avec moi. Pour l'instant, j'accueille au téléphone le directeur du musée des impressionnismes de Giverny, Cyril Siama. Bonjour Cyril.
Bonjour Hélène.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
Parfait. Eh bien, je vous remercie de nous accorder un petit peu de votre précieux temps pour nous présenter le musée que vous dirigez depuis 2019 et les autres atouts de la ville de Giverny. Ils sont nombreux. Vous êtes un spécialiste de la peinture du 19e et du début du 20e siècle. Au musée d'art de Nantes, vous étiez commissaire de l'exposition Nantes 1886, le scandale impressionniste. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce qu'était ce scandale ?
Ah, c'était une belle exposition qu'on a créée en 2017. C'était en fait la recréation de la dernière exposition impressionniste en province. Ça a eu lieu à Nantes et à cette exposition, on pouvait à la fois voir Gauguin, Signac, Pissarro et il y avait en effet une confrontation entre la peinture de genre académique, on va dire,
oui,
la peinture de salon et puis la révolution des impressionnistes qui était présentée dans une petite salle à cette époque et quand ils ont été présentés à Nantes, c'était un énorme scandale.
C'est ça. C'est ça. Et depuis, eh bien, on a vu le chemin parcouru par la peinture impressionniste.
Voilà, après les œuvres ont rejoint les collections privées et ensuite les musées français et internationaux.
Voilà. Bon, donc vous avez fait vos armes en tant que commissaire et puis vous êtes le nouveau directeur du musée des impressionnismes. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ce bâtiment, juché sur une colline, était en 1992 ?
Alors ce bâtiment, il est d'abord presque invisible. Il est niché, en effet, lové dans la colline de Giverny. Mmh. C'était en fait un bâtiment qui a été fait par l'agence Reichen et Robert. Ce sont des architectes parisiens. Ils ont notamment fait la Halle de la Villette, par exemple.
Oui.
Et ils sont spécialistes aussi de l'intégration des bâtiments dans la nature. Ça les passionne. Et ils ont eu, en fait, en 92, l'opportunité de créer le musée d'art américain de Daniel Terra, qui était un philanthrope, mais un collectionneur aussi de peintures 17e, puis après de peinture impressionniste américaine.
Mm-hmm.
Et Daniel Terra a voulu créer un musée à Giverny à quelques pas de la maison Claude Monet.
Voilà.
Donc le musée d'art américain a fonctionné jusqu'en 2008. Ensuite, il y a eu un autre projet où on a gardé des bâtiments et on a créé le musée des impressionnismes.
Voilà, ça, du coup, vous le dirigez maintenant. Et entre-temps, entre 2009 et 2019, qui était à la tête de ce musée ?
Alors, on a eu plusieurs directeurs.
Oui.
Il y avait Diego Candil, qui travaillait d'abord à la Fondation Terra, puis il a après rejoint l'équipe ici. Et puis ensuite, on a eu Frédéric Franck, qui est maintenant directeur d'art culturel à Rouen.
Mmh.
Et moi, je suis arrivé ici. Et la particularité, c'est qu'avant, il y avait un directeur général et une conservatrice, enfin, une directrice scientifique. Et donc là, on a fusionné les deux postes. Donc c'est pour ça qu'il y a un conservateur à la tête du musée, comme dans beaucoup de musées français, en fait.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler avant ce qui se passe aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, des expositions majeures qui ont eu lieu dans ce musée des impressionnismes.
Oh, il y a eu beaucoup d'expositions qui ont marqué. Hein. Moi, oui. Je suis un héritier d'une très belle tradition ici. Mmh. Il y a eu japonisme impressionnisme en 2018 qui a été fondamental. Il y a eu des expositions aussi sur Degas. Est-ce que c'était un peintre impressionniste ou pas? Ça devait être en 2015.
Oui. Et alors, quelle est la réponse?
La réponse, moi, je pense qu'il est impressionniste, Degas. Oui. C'est quand même le fondateur du mouvement.
Oui.
Et il appelle ça une société réaliste, mais c'est d'abord une coopérative révolutionnaire, hein, en 1874. Et oui, il a quand même quelque chose de très impressionniste.
Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme autres belles expositions?
Oh, il y a des expositions qui ont marqué le public, je pense, comme Hiramatsu Reiji, cet artiste japonais, qui en a fait ça en 2013, ça a été extraordinaire. Du coup, on a eu beaucoup d'œuvres qui sont entrées dans les collections. On a fait Monet au Burtin récemment, on a fait Carrière des Roussels, et puis l'an dernier, on a fait Côté Jardin de Monet à Bonnard, qui a été un très beau succès, une belle preuve de résilience du public
après
la pandémie.
Oui, c'est ce que je voulais vous demander justement. Est-ce que aujourd'hui, donc le musée des impressionnismes accueille à nouveau le public français, le public parisien, mais aussi le public international?
Alors on a la chance, on a un public qui est fidèle, qui aime d'abord beaucoup le bâtiment et le lieu, donc ils viennent aussi se promener. Et puis ils viennent voir les expositions. Alors beaucoup de Français, beaucoup de Franciliens, beaucoup de gens qui viennent de Paris. Et puis on a en effet un public international qui a un petit peu changé. Avant on avait beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais. Maintenant pendant quelques temps on n'a pas vu du tout d'Américains, mais là ils sont revenus cette année, mais vraiment revenus comme
en nombre,
comme en 2019,
oui.
Comme avant. Et puis un public qui est un petit peu différent, plus européen, beaucoup de Belges, de Hollandais, d'Italiens, beaucoup d'Italiens en ce moment.
Bon, bah du coup c'est un endroit qui vit, et c'est ça que nous souhaitons à Giverny, évidemment. Alors pour revenir à vous, Cyril Siama, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et catalogues des expositions, et notamment Le Beau Bizarre. Enfin, vous aimez bien les titres qui ronflent un petit peu et qui attirent l'oreille, on va dire. Et puis plus récemment, Monet Rothko. Alors, je dois vous dire, vous le savez bien, que je suis allée voir cette exposition, mais vraiment extraordinaire, Monet Rothko. Et du coup, elle a eu lieu de mars à juillet, c'est fini.
Oui.
Mais en quelques mots quand même, comme elle m'a beaucoup marquée, puis je pense qu'elle a marqué beaucoup, beaucoup les visiteurs, je voudrais vous demander ce qui vous a conduit à ce rapprochement entre deux univers apparemment éloignés l'un de l'autre, hein, Claude Monet et Rothko. J'avais déjà vu des prémices de ce rapprochement au château d'Auvers-sur-Oise, et du coup quand j'ai vu cette exposition, ça a semblé une évidence, alors qu'apparemment, même si on sait que Rothko admirait beaucoup Monet, c'était pas si évident de rapprocher les deux façons de peindre.
Alors disons que c'était un projet que je portais quand je suis arrivé au musée des impressionnismes. C'était une vieille idée qui a éclos au bon moment. Il y a eu beaucoup d'expositions qui ont rapproché Monet avec la modernité. Notamment, il y a une exposition à l'Orangerie sur Monet, l'abstraction américaine, des Monet, et puis un Rothko, mais pas que Rothko, évidemment, il y a plein d'autres artistes américains. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce que vraiment c'est un rapprochement qui est sensible, est-ce que c'est compréhensible? Et un jour, j'étais à la Tate, à Londres, et dans une salle, il y avait les Rothko, bien évidemment, qui sont sublimes, et au bout d'une salle, il y avait une œuvre de Monet des Nymphéas. Je me suis dit, c'est incroyable, le rapprochement est incroyable, mais t'es pas volontaire.
Oui.
Et je me suis dit, tiens, mais est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Alors, j'ai présenté le projet ici au conseil scientifique, et toute la difficulté, c'était d'avoir les Rothko.
Oui.
On a la chance, en fait, au musée des impressionnistes d'avoir un partenariat avec le musée Marmottan, mais aussi avec le musée d'Orsay, bien évidemment.
Oui.
Donc, on a plus de facilité pour avoir des Monet. Mais les Rothko, c'est très compliqué, surtout pendant la période de la pandémie. Donc, on s'est dit, on allait faire une exposition qui était un peu une idée sensible, en mettant pas trop d'œuvres. Est-ce que ce rapprochement pouvait fonctionner entre Marc Rothko, le père de l'abstraction américaine, et puis Monet, le père de l'abstraction française? Et on a mis des tableaux très tardifs de Monet, ou les plus abstraits possibles. Et on les a rapprochés de ceux de Marc Rothko. Donc il y avait 6 Monet, 7 Monet et 6 Rothko.
Oui.
Et je crois que ça séduit le public. En effet, c'était un peu une découverte à la fois pour les gens, pour Rothko et puis pour Monet.
C'est ça.
On a mis un éclairage un peu particulier. On voulait pas mettre les cadres en valeur, on voulait vraiment mettre la peinture. de telle sorte qu'elle vibre. Et c'est une expérience qui a bien fonctionné. Je pense que ça a intéressé le public. Ouais.
Ah bah, tout à fait.
Beaucoup de monde.
Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai, c'était très intéressant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement qu'il n'y ait pas trop d'œuvres. Et du coup, moi, je regardais moi-même, mais je regardais aussi les jeunes qui étaient attentifs et qui s'arrêtaient. Parce que quand on visite un musée, enfin, je sais pas, comme le Louvre, on va vite, on veut en voir le plus possible, ce qui est d'ailleurs pas une bonne démarche, en fait. Et là, eh bien, on avait envie de s'arrêter. Toutes les explications étaient lumineuses, je trouve. Et du coup, on comprenait ce rapprochement qui finalement semble évident, alors qu'au départ, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, je voulais vous dire, vraiment vous féliciter pour cette exposition. Elle était très, très intéressante. Alors, on va faire une toute petite pause musicale avec Léo Ferré, La vie d'artiste, bien sûr. Ouais. Et puis, nous revenons à vous.
On s'est rencontrés par hasard ici ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ça n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais si tu pensais à 20 ans, on peut vivre de l'air du temps. Ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié. Dans ce bilan triste à pleurer, qui constate notre faillite, il te reste encore de beaux jours. Profite-en, mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir. Tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano. Je continue ma vie d'artiste plus tard, sans trop savoir pourquoi. Un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès. Mais un peu triste, toi qui sais. Tu lui diras que je m'en fiche. Que je m'en fiche.
Revenons au présent. L'exposition qui s'ouvre le 14 octobre et qui dure jusqu'au 8 janvier 2023 s'intitule « Ange Leccia ». Au fil du temps. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est cet artiste contemporain, Cyril Siama?
Alors, l'exposition s'appelle « Au film du temps ».
Ah, pardon, « Au film du temps ».
Il a fait un petit jeu de mots sur ça, c'est tout à fait son humour.
Bien sûr.
Ange Leccia, il est né en 1952. C'est un photographe, cinéaste, vidéaste. Il est né en Corse, à Minervio. Et puis, c'est un artiste qui a développé un univers très personnel. Avec la vidéo, beaucoup de gens connaissent Billy Viola, la star de la vidéo internationale, et Ange Leccia, lui, il a fait de la vidéo en France dans les années 70. Il était avec un professeur qui était un peu post-68 art, il avait une caméra dans les mains, il s'est mis à filmer un peu son village corse, la mer, et puis il est parti, il a eu l'opportunité de partir à la Villa Médicis à Rome.
Oui, oui.
Il a commencé à se confronter à l'histoire, c'était cette histoire incroyable romaine et de l'Antiquité et de la Renaissance, et pour l'expliquer, que pour essayer de comprendre ce qui se passait, il a mis des filtres colorés entre les monuments qu'il voyait, les paysages qu'il voyait, et puis à sa caméra. Et donc il a commencé à créer des vidéos comme ça, un peu filtrées, en jaune, en orange, en vert. Et il a développé comme ça un ensemble de films qui sont à la fois des projets de paysages, voilà, qu'il peut voir. Et puis l'histoire, le portrait, il est absolument fasciné par les visages féminins, mais pas que. Et il a fait beaucoup de séries sur les portraits d'adolescents. Et c'est un univers qui est à la fois très immersif, ce sont des grandes vidéos qui peuvent durer assez longtemps, et puis très poétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaissance de quoi que ce soit pour rentrer dans cet univers-là, et c'est accompagné souvent de très belles musiques de Julien Pérez, qui crée des bandes originales. Donc c'est vraiment un univers impressionniste. Il a eu l'occasion de présenter son travail au Musée de l'Orangerie très récemment pour l'exposition de décors impressionnistes. Il a fait une œuvre qui s'appelle D'après Monet, donc il est venu à Giverny en 2019, il ne connaissait pas la maison, et il a filmé la maison le soir, quand il n'y a plus de visiteurs, très très tôt le matin. La maison et les jardins, et évidemment les nymphéas, et donc il a créé une œuvre. Et au musée, on va déployer donc une rétrospective sur cet artiste, qui avait des années 70 à nos jours, et on lui a commandé une œuvre qui s'appelle Au film du temps, justement.
D'accord, Au film du temps. Mais écoutez, ça a l'air bien joli, parce que on a envie de se plonger dans ce monde, et puis de rêver, de se laisser aller à la rêverie. Ça sera très différent, certainement, de Monet-Rothko. Ça sera plus une plongée dans l'univers d'Ange Leccia, et puis se laisser un peu aller, non?
Absolument. On a envie aussi au musée de proposer des expositions historiques sur l'impressionnisme, mais aussi des prolongements contemporains. On avait invité Eva Jospin l'an dernier. C'est une surprise pour le public. Et puis là, on va le refaire. On va inviter des artistes contemporains qui ont des résonances avec l'impressionnisme. Et Ange Leccia, il a une vision très très universelle de la nature. Et puis il est j'allais dire comme moi, mais comme Monet aussi, passionné par le Japon. Il a vécu. Et donc il y a un rapport au temps, un rapport à la nature qui est très philosophique finalement. C'est un ralentissement du temps, un peu comme Monet-Rothko. Ça permet de se poser, de se calmer. Ça demande du temps de regarder une vidéo. On zappe pas ça en 5 minutes, et surtout on met ça sur des grands écrans. Donc on est plongé dans un univers totalement différent. C'est très étonnant, et en même temps les 1000 mètres carrés du musée permettent de présenter beaucoup de vidéos et très différentes les unes des autres. Donc c'est vraiment une plongée dans le temps et dans le paysage.
Oui, c'est ça, et puis aussi un rapprochement entre des univers très lointains comme le Japon, et finalement qui ne sont pas si lointains que ça. C'est ce que j'aime beaucoup, hein, c'est que en fait dans notre monde tout est relié, et c'est bien d'accentuer un peu sur ce qui nous rassemble, on va dire, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du déroulé de l'exposition, comment elle se présente, combien de temps on va pouvoir mettre pour justement aller au film du temps?
Alors, l'exposition commence le 14 octobre, elle aura lieu jusqu'au 8 janvier.
Oui.
On a environ une quinzaine de vidéos. Alors, il y a trois grandes salles. La première salle, ce sera consacrée à peut-être le film qui a le plus rendu célèbre, Ange Leccia, ça s'appelle La Mer. Oui. C'est un ensemble projeté où on voit en fait la mer en noir et blanc, une mer corse, et qui l'a filmé à l'envers, donc c'est très immersif. On a vu ça au Palais de Tokyo. Et puis la deuxième salle, c'est une succession de films. Il y aura Au film du temps, voilà, c'est le film qui projette un visage, une jeune femme, sur un champ d'olivier, et on se promène avec elle dans ce paysage, avec une magnifique bande originale de Julien Pérez.
Donc, pardonnez-moi, mais cette vidéo, c'est elle qui donne le titre à l'exposition?
Absolument.
D'accord.
Oui. Et on aura aussi Charlotte, c'est un très bon portrait d'adolescente. On aura Laure, une autre adolescente. On aura une vidéo assez incroyable qui s'appelle Au Superman, d'après la musique, et c'est un rapport entre ce qu'il a fait entre le confinement en 2020 et l'histoire. C'est une dénonciation de la guerre.
D'accord.
Avec une musique incroyable. Mais on a aussi les champs des oliviers, on a une troisième salle qui est totalement immersive, ça sera donc D'après Monet, sur 10 mètres de long. On aura cette création qu'il a commencer à déployer le musée de l'Orangerie et qu'on va complètement ouvrir à Giverny. Ça sera un dialogue entre Monet en train de peindre, filmé par Sacha Guitry au début du XXe siècle, et le jardin de Claude Monet de nos jours, fini en 2019 par Angèle Chia, avec plusieurs écrans. Et donc on va vraiment ralentir le rythme. L'idée, c'est vraiment que le public se pose, s'assied sur des coussins, sur des couches, et soit plongé dans cet univers végétal extraordinaire qu'a créé Claude Monet à Giverny.
D'accord. Et donc là aussi, tout public bienvenu, puisque les collégiens, les lycéens feront une petite pause dans leur adolescence, et puis viendront rêver un peu, et les thèmes choisis, je pense, feront écho à leurs préoccupations.
Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose que les collégiens peuvent voir, les lycéens peuvent voir dans ce monde d'images. Ils sont saturés d'images. Ça va peut-être leur ouvrir aussi une autre possibilité de regarder autrement les images qui défilent. Et puis, il y a quelque chose qu'on fait d'assez original. On a donc Julien Pérez qui fait la musique, qui va venir faire un DJ set pendant une heure et demie. Il va venir dans les salles des musées et on va couper toute la musique des vidéos et c'est lui qui va les recréer en direct dans les salles du musée et on va publier aussi un vinyle. Il y aura 250 exemplaires qui vont être publiés.
Parfait.
Donc on produit un disque de Julien Pérez sur la musique de qu'il a faite pour cette exposition. Donc c'est vraiment une création.
D'accord, et ça c'est pour se souvenir une fois qu'on aura visité l'exposition. C'est toujours très bien d'avoir comme ça une résonance. Alors écoutez, ça c'est très intéressant. Vous nous parliez des jardins, de la maison de Claude Monet. Est-ce que vous pouvez nous dire donc quels sont les autres trésors à découvrir une fois qu'on vient à Giverny, qui est quand même une station d'une bonne journée, enfin même plus, on peut y dormir. On le sait bien à Giverny, mais pour les franciliens qui viennent découvrir Giverny et qui commencent par le matin, votre beau musée des impressionnismes, l'après-midi, ils peuvent aller se promener dans la maison Claude Monet et puis dans ses jardins. Vous pouvez nous en dire, nous faire un petit peu le guide ?
Oui, Giverny, c'est un magnifique petit village, 500 habitants, une rue qui fait 2 km de long environ, des maisons bordées de jardins sublimes. C'est extrêmement vert et végétal ici, avec des collines et une lumière fantastique qui se déploie sur tout le village. C'est pour ça que Monet est venu ici.
Voilà, c'est pas pour rien, bien sûr.
Parce que la Seine est à côté et le soleil se reflète sur la Seine et sur les collines. C'est très particulier. Et donc Monet a loué une maison, puis l'a acheté le pressoir. Il a donc développé un jardin extraordinaire qui appartient maintenant à l'Institut. Et donc, on reçoit des milliers de visiteurs. La Maison Monet reçoit des milliers de visiteurs par an ici. On vient du monde entier voir cette maison où il a vécu et où il est mort. Et donc, il a créé peut-être sa plus belle œuvre, comme il le disait, c'est son jardin.
Oui, je voudrais juste, pardonnez-moi, je voudrais juste sur la maison qu'on revienne aux couleurs particulières, comme Monet quand même était un peintre de la couleur. En deux mots, quelles sont les couleurs dominantes dans les différentes pièces de la maison ?
Alors, la maison, elle est incroyable. Oui. C'est une maison assez longue. Il devait recevoir tous les enfants de sa compagne, Alice Chédé. Donc il y avait 8 enfants quand même dans la maison. Mmh. Et il y a une immense salle à manger qui est jaune, qui est un jaune incroyable. La cuisine était totalement bleue. Et puis quand vous montez à l'étage, vous avez les chambres avec tout ce qui est le décor du 19e siècle, les meubles du 19e siècle, des tapisseries. Donc il y a une ambiance très 19e et l'atelier de Claude Monet. Où il y a des célèbres photos de lui-même avec ses toiles. Alors là, il y a beaucoup de reproductions. Il y a l'ambiance, en fait.
Oui.
On a l'impression que c'est vraiment une maison d'artiste. C'est très vivant.
Voilà, et c'est très bien qu'on voit cette maison où il a produit beaucoup, beaucoup d'œuvres et dans quelle ambiance il était. Elle est recréée, cette ambiance. Et puis donc, il y a ce jardin de fleurs, ce jardin d'eau, ces nymphéas inspiratrices. Comment est-ce qu'on peut déambuler dans le jardin ? Il faut quand même qu'il fasse beau.
Ah, vous savez, moi j'y vais souvent, j'ai la chance d'y aller souvent.
Oui.
J'aime beaucoup y aller par exemple à l'automne, en octobre, je trouve ça sublime. Il y a moins de public, la végétation est différente. Alors c'est sûr que les nymphéas, ils ne sont pas fleuris, ils fleurissent en juin. Mais c'est à toute saison, c'est magnifique.
C'est ça.
Même quand il pleut, vous avez la pluie qui se reflète sur le bassin, c'est extraordinaire avec ce pont japonais, ces glycines. Il y a quelque chose d'intemporel, en fait, dans ce bassin. D'ailleurs, tout le monde se sent bien dans le jardin.
Mais c'est
tout,
vrai.
Tous les visiteurs qui viennent se posent, admirent, discutent avec les jardiniers.
Oui.
C'est un jardin de couleurs. Ça a été créé comme une palette de peintre, donc c'est absolument sublime.
Et c'est vrai que c'est une parenthèse dans la vie agitée des villes. Giverny, c'est, comme vous dites, une pause, une espèce de quiétude. Alors, on va revenir un petit peu au musée des impressionnismes. Quelles sont les futures expositions pour cet hiver et ce printemps 2023? Et oui, je voulais vous poser la question. Le musée ferme au mois de janvier?
Alors, on va fermer le 8 janvier.
Oui.
D'abord parce qu'il n'y a plus grand monde au village, il y a beaucoup de choses fermées. On va rouvrir au printemps, après Ange des Chiens, on va rouvrir après une exposition le 31 mars qui s'appellera Les enfants de l'impressionnisme. C'est sur les enfants des impressionnistes et comment ils ont peint les enfants de leur entourage, leur cousin, leur famille, leur commanditaire, leur voisin.
Oui, pas seulement la famille, c'est ça. C'est ça qui est très intéressant, oui.
Absolument, un rapport à l'enfance. Ce qui plaît en fait dans l'impressionnisme, c'est le regard très heureux qu'on peut avoir. Et là, on va essayer de dévoiler un peu les histoires des enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont été aussi peintres eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont collectionné? Est-ce qu'ils ont tapé à leurs parents? Est-ce que les peintres impressionnistes qui peignent des enfants ont des enfants? Par exemple, parfois, il y en a qui n'en ont pas. Donc, c'est aussi un rapport à l'enfance qui parle de nos jours. Et puis, on fait une incursion dans l'art contemporain. On aura des photos contemporaines, de photographes qui représentent l'enfance de nos jours, voir aussi comment ça dialogue.
Ah, c'est joli, hein, cette exposition.
C'est dialogue entre l'impressionnisme et l'art contemporain aussi.
D'accord. Ben, écoutez, c'est une exposition qui donne envie, en tout cas, ce regard un peu particulier sur l'enfance et ce que deviennent les enfants qui ont été peints. Ça me plaît beaucoup.
Et vous avez des chefs-d'œuvre, hein. Oui. Vraiment des œuvres incroyables.
Et vous avez retrouvé
des Figaro, des Monet, c'est incroyable.
D'accord. Est-ce que vous avez retrouvé le parcours de ces enfants, ce qu'ils sont devenus? Ça devait être difficile quand même.
Ah mais finalement, on a quand même, oui, on a la chance d'avoir fait des recherches qui ont abouti. On a pas mal d'auteurs qui ont écrit dans le catalogue et les familles d'artistes nous ont bien aidés aussi pour essayer de voir qui était sur les tableaux. Donc la famille Pissarro va nous aider, par exemple.
D'accord.
La famille Monet nous a écrit un texte, Philippe Higuet nous a écrit un texte sur Monet et ses enfants. Il y a quelque chose d'assez intime, en fait, et ça a intéressé aussi les prêteurs de voir le contexte, en fait, de l'éducation, de la mode, comment ils étaient habillés, comment ils étaient élevés, comment manger à table à cette époque-là.
Oui, les choses ont évolué, on va dire.
Est-ce que c'était des bourgeois ou pas, aussi, qui vivaient de manière bohème, ou est-ce que c'était vraiment des gens qui étaient assez stricts? Et Monet, par exemple, c'est un homme assez strict.
Il fallait
à
lui.
Et Renoir.
Oui.
Renoir aussi, il fait élever ses enfants dans des bonnes institutions parisiennes.
Hein. Oui.
Donc, c'est aussi ça. Hein. Et on va essayer de montrer un peu autre chose.
D'accord. Ce questionnement est intéressant aujourd'hui, hein, en 2022-2023. Très intéressant. Non, en 2023, on va dire. Et ensuite, cette exposition, Les enfants de l'impressionnisme, elle va courir jusqu'au 2 juillet. Et puis après, parce que évidemment, il faut toujours bien prévoir, préparer, vous nous proposez une exposition Renoir à Guernesey jusqu'au 10 septembre, c'est ça?
Oui, c'est une exposition qu'on fait avec Guernesey. C'est une proposition qui permet de voir, en fait, la production de Renoir quand il est parti à Guernesey en 1883.
Oui.
D'ailleurs, c'est l'année où Monet arrive à Giverny. Il est resté 5 semaines. Renoir à Guernesey, il était sur la côte normande et il a eu envie d'aller voir ce qui se passait en face. Et donc c'est une proposition qui permet de voir aussi que Renoir est passé de la figure, hein, peintre de portrait, au paysage, grâce aussi à ce passage à Guernesey.
Il était fasciné
par les paysages et par les nus qu'il a vus, les gens qui se baignaient dans la Manche, ça l'a fasciné et donc il a créé une quinzaine de peintures. Donc c'est une proposition inédite qu'on fait avec Guernesey. On est très heureux parce qu'il faut aussi de faire un lien entre le bailliage de Guernesey, nos amis britanniques, franco-britanniques, et puis la France. Avec il y aura un échange entre Giverny et Guernesey, un échange culturel et pédagogique.
Donc toujours cette idée de rapprochement. C'est beau, ça me plaît infiniment. Et puis, dernière exposition, ça sera Flower Power, du 29 septembre jusqu'au mois de janvier 2024. Alors là aussi, c'est tellement séduisant ce thème que vous avez choisi, le pouvoir des fleurs, et Dieu sait si les fleurs ont un pouvoir, de l'Antiquité à nos jours. Vous pouvez nous dire un petit mot de cette exposition ?
Ah ouais, c'est une exposition, on a beaucoup de plaisir à la présenter l'an prochain. On est en train de la créer avec la Kunsthalle de Munich.
Oui.
Ça va d'abord, il y a une version très différente qui se déploie à Munich au mois de février. Et c'est une exposition qui permet voilà, de regarder les fleurs de l'Antiquité à nos jours, depuis en fait la sculpture antique, on va dire, jusque au calvaire. Et on a des œuvres absolument incroyables. Mmh. Ce qui est très, très précieux pour nous, c'est qu'on a voulu créer vraiment une salle avec que des fleurs impressionnistes.
Oui.
Pour qu'il y ait vraiment une résonance à Giverny. Mmh. On a des œuvres de Fontana-Latour, mais aussi de Manet, de Cézanne, de Renoir, de Caillebotte, de Monet. C'est extraordinaire, vraiment. Et on a eu une chance incroyable. On a des œuvres du musée Guimet, du musée du Louvre, qui sortent rarement. Mmh. Des plats d'Isnique, des choses qui sont très international, à la fois du 15e siècle, du 17e, des tableaux flamands. Et donc c'est une exposition avec beaucoup de sens sur le pouvoir des fleurs, c'est-à-dire l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect précieux, l'aspect amoureux.
Oui.
Il y a beaucoup de sens en fait aux représentations des fleurs dans les œuvres d'art. Et donc c'est une œuvre totale en fait, c'est une exposition qui va rassembler 50 œuvres qui viennent du monde entier.
Voilà, c'est ça.
Et qui est de périodes très très différentes, donc chacun va y trouver des choses très très personnelles. On est en train de négocier pour avoir un costume avec des fleurs à la haie, donc il y a énormément de choses, et de la photographie contemporaine.
Bon, ben je vois que vous avez beaucoup d'idées, Cyril Siama, et des idées à la fois très belles, qui rapprochent les mondes, qui rapproche les temps aussi, c'est très très intéressant. Alors, pour terminer, comment est-ce qu'on vient à Giverny? Parce que ce n'est peut-être pas si simple que ça d'ailleurs.
Ah bah Giverny, on y va par le train, on prend le train à Saint-Lazare, on s'arrête à Vermont-Giverny, il y a une navette.
Il y a une navette qui emmène, d'accord, et les navettes, elles sont disponibles tous les jours?
Alors, jusqu'au 1er novembre, c'est disponible, en effet, tous les jours.
Oui.
Et puis ensuite, en novembre, il y aura un autre rythme, en fait, de navette. Et puis sinon, on arrive à Giverny, on prend un vélo, hein. C'est 4-5 kilomètres en vélo, c'est rien. Mais beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens viennent en voiture.
Oui.
Parce qu'en fait, ils veulent séjourner à Giverny.
C'est ça.
Ils font le tour, ils vont à Vernon, ils vont regarder aussi la région qui est très belle.
C'est vrai,
donc,
Vernon, c'est très joli.
À l'hôtel, voilà.
Oui.
Et restent une nuit et repartent.
Bon, alors on va leur conseiller de faire ça, évidemment, puisqu'il y a de quoi voir à Giverny. Quels sont les horaires de votre musée des impressionnismes?
Alors, on est ouvert, je crois, du tous les jours, de 10h à 18h.
D'accord. Et de novembre à janvier?
Alors, on va varier nos horaires. On sera ouvert le vendredi, samedi, dimanche. Et puis
d'accord.
Tous les jours des vacances de Noël.
Ah oui, voilà. D'accord. C'est ce que je voulais que les auditeurs entendent pour déjà prévoir leur séjour à Giverny. On a vu que le public accueilli était multiple et même international. Est-ce que vous pouvez nous donner un numéro de téléphone pour avoir le contact?
Sur le musée?
Sur le musée, sur Giverny, mais bon, il y a un site.
Bien sûr, vous appelez le 0232 51 94 65.
Voilà, je vais le répéter, 02 32 51 94 65 pour avoir tous les renseignements que vous avez eu la grande gentillesse déjà de nous donner au téléphone. Cyril Siama, je vous remercie beaucoup. Et puis évidemment, au nom de tous les auditeurs et auditrices d'IDFM 98, je vous dis à bientôt à Giverny.
Merci beaucoup Hélène, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Nous sommes toujours sur IDFM 98, à l'heure divine entre chien et loup, et nos chemins croisent maintenant ceux de deux artistes de troupe qui sont venus jusqu'à nous parler de leur compagnie, de leur spectacle et de leur projet. Bonjour Julien Guillaumard.
Bonjour.
Bonjour Elodie Vomhoff.
Bonjour.
Alors, vous avez fondé tous les deux, je vais dire ensemble parce que je pense que c'est vraiment un travail collectif. Vous avez fondé la compagnie Cena Nostra en 2004.
Mmh. Ouais.
Que faisiez-vous avant ?
Avant, on était à l'école.
Oui, on était à l'école ensemble, au conservatoire.
Je parle de votre parcours, bien sûr, étudiante.
Oui, on était au conservatoire du 5e arrondissement tous les deux.
Et c'est là que vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés avant au cours Florent.
Ah, au cours Florent. Bon, alors quel parcours quand même magnifique,
ouais.
Hein.
Et donc ça date, ouais.
Oui, ben c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que voilà, vous avez cheminé ensemble et que voilà, ça a été extrêmement créatif votre rencontre.
Oui, il faut croire, oui.
Voilà. Et donc Julien, même parcours, cours Florent et puis le conservatoire et donc à partir de 2004, vous avez l'idée de fonder cette compagnie Cena Nostra, mais avant est-ce que vous aviez eu des créations ?
C'est plutôt dans le sens inverse généralement que ça se fait, c'est à partir de l'envie de faire des projets et de fédérer autour de l'écriture, je me suis mis à écrire et après on s'est dit ça pourrait être pertinent de créer une compagnie justement pour structurer cette envie-là.
Et puis pour jouer ce que vous aviez écrit ?
Oui. Bah, à partir du moment où on écrit qu'on a envie de fédérer autour de nos projets, on a la nécessité pour ne serait-ce que demander des subventions, aller voir les théâtres, d'avoir une structure pour organiser tout ça.
Et est-ce que ça a été facile, Elodie ?
Facile, oui, parce qu'on peut créer une association assez rapidement. Après... Après, il faut comprendre comment ça fonctionne, parce que par exemple, on avait domicilié chez nous l'association avec les parents qui étaient les présidents, etc., ce qui est une grosse erreur.
Ah,
donc,
oui.
Une fois qu'on a rencontré des gens compétents, quand on a commencé à être un peu plus vieux, on a commencé à comprendre véritablement comment ça fonctionnait, à faire des demandes de subventions, etc. Et c'est là, en fait, où ça devient plus compliqué.
Oui. Non, il faut une structure. Hein,
ouais. Et puis des gens autour hein, qui
oui,
vous aident.
Les bonnes intentions, c'est bien, mais ouais. C'est vrai que la réalité... Elle est compliquée à vivre, ça je veux bien vous croire. Alors, Elodie Vomhoff, vous êtes dramaturge et comédienne.
Oui.
Vous faites certainement encore des ateliers théâtraux. En 2014, c'était les femmes et les enfants d'abord. Dites-nous un petit mot de ça.
Alors, non, les femmes et les enfants d'abord, c'est une autre compagnie
oui.
que je dirige. Et là, effectivement, ce sont des spectacles jeunes publics.
D'accord.
Voilà, avec lesquels je travaille en tournée, toujours actuellement.
D'ailleurs. Et ça fonctionne bien.
Oui.
Marcel, le jeune public, hein. Il faut vivre.
Non, c'est bien, ça se diversifie. Comme ça, on n'est pas toujours ensemble avec Julien. Donc, oui, ça permet un peu de diversifier les projets et les tournées.
Et puis, ce qui est bien, je trouve, c'est que d'initier vite les élèves ou les enfants au monde du théâtre.
Oui, absolument.
Parce qu'après, c'est tellement révélateur.
Oui, oui.
Voilà, donc, très bien. Et vous, vous êtes chanteuse aussi, Élodie?
Ah oui.
Et oui.
Oui, oui, oui. J'ai fait un album il y a quelques années. Et du coup, en fait, j'utilise surtout ce talent, si je puis dire, dans les spectacles pour enfants. Voilà. Ce sont la plupart du temps des spectacles musicaux.
Très bien. Ah oui, c'est ce qui fonctionne. Ouais. Et puis vous, Julien Guillaumard. Alors, vous êtes auteur et metteur en scène. Alors, j'ai relevé Naissance, Brève, Syndrome U, Les Méritants, Post-Apocalypse. alors ça, est-ce que ça veut dire que votre vision du présent est assez particulière et que vous vous tournez vers un avenir pas forcément meilleur? Dites-moi.
C'est plutôt se projeter dans l'avenir pour mieux parler du présent.
Oui.
Et bon, la manière que je peux avoir de parler de l'avenir, parfois ça peut paraître assez noir, mais c'est une manière de contourner l'actualité brûlante pour parler de choses pour le coup qui sont très actuelles, les thèmes de société, etc. Mmh. C'est créer du débat, en fait, du débat politique au sens large sur les questions communes, et je trouve que le fait de passer par de l'anticipation, voire sur la prochaine création, c'est du post-apocalypse zombie, donc là on va carrément dans la science-fiction.
D'accord.
Ce sera pas une pièce horrifique, hein, mais c'est plutôt un détour pour mieux parler des mécanismes à l'œuvre en ce moment, et puis créer le débat, voir ce qu'on en pense. Donc passer par ces métaphores-là, oui, c'est vraiment une manière de parler de l'actualité.
D'accord. Est-ce que vous voulez dire par là que peut-être plus tard, ça serait pire si, et puis ceci, vous interrogez le présent, et puis vous essayez de réveiller un peu quelques consciences?
Oui, dans une certaine mesure. Après, j'essaie de pas sombrer dans le pessimisme, hein. C'est toujours assez drôle ce qu'on fait.
Oui.
Et les créations qu'on va faire dans le futur vont essayer d'ouvrir un petit peu les imaginaires plutôt qu'une fin annoncée, voire les alternatives possibles. Parce que c'est vrai que à toujours parler de la fin annoncée,
oui,
ça peut avoir un côté anxiogène, même
oui,
quand on fait de la comédie.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Et c'est vrai que j'ai bien envie de parler de tout ce qui se fait. C'est-à-dire, quand on fait du travail de prospective aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ça peut être assez désespérant parfois, mais il y a aussi plein d'initiatives, plein de nouvelles choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective sur le dérèglement climatique et puis la crise sociale qu'on traverse qui est assez aiguë en ce moment. Et je trouve ça très intéressant de voir les initiatives qui vont plutôt dans le bon sens pour ouvrir les imaginaires à autre chose.
Oui, oui, il y en a de bonnes initiatives, hein, heureusement.
Ouais.
Heureusement, ça permet de respirer un peu. Alors, je vous ai cantonné dans des rôles spécifiques, Élodie et Julien, donc une dramaturge, comédienne, chanteuse et un auteur, metteur en scène. Et évidemment, ma question, c'est est-ce que les rôles s'inversent?
Se complète. C'est plutôt ça que j'allais dire, effectivement. C'est-à-dire que dans la compagnie, même dans l'organisation même, c'est-à-dire que Julien est plus doué au niveau diffusion, rapport avec les programmateurs, les professionnels, etc. Et moi, je suis plus du côté administratif, production, les liens avec les théâtres. Mais une fois que la barrière de la coproduction ou de la session est passée, on est très complémentaires là-dessus sur l'organisation de la compagnie.
Ça, c'est l'approche très administrative.
Voilà. Et puis après, il y a l'approche artistique,
oui,
où effectivement, Julien écrit, mais il n'écrit pas seul. Et donc, il y a moi qui relie énormément. On fait beaucoup de sessions de travail à la table, avec notamment aussi Damien Houssier. Donc, on est un trio à la base des textes.
Oui.
Et puis après, quand on travaille au plateau, on peut dire que c'est une création collective à partir du texte de Julien Guillaumard. Mais voilà, on travaille de façon assez collective, finalement.
Parce qu'il y a un gros groupe avec nous. Il y a beaucoup de comédiens.
Je voulais justement qu'on y vienne, c'est parfait. Donc votre compagnie, elle est composée de combien de membres, Julien?
Alors ça se fait principalement en fonction des projets,
oui,
que ce soit les projets immersion que vous connaissez.
Oui, on va en parler, bien sûr.
À travers le territoire, les projets de création ou les formes plus itinérantes,
oui,
à chaque fois. les projets sont différents, donc les distributions sont différentes. Donc on va dire que je pense qu'il y a une grosse dizaine de
des permanents, on peut dire. Non,
pas permanents, pas c'est non, les permanents c'est vraiment Julien, moi et puis l'équipe administrative. D'accord. Après c'est des intermittents qui interviennent selon les projets, mais effectivement on est assez fidèles avec les gens avec lesquels on travaille. Ça dépend aussi eux de leur emploi du temps, etc.
Oui,
mais
c'est ça.
Mais c'est vrai que les troupes avec des comédiens permanents, ça n'existe plus vraiment. Souvent c'est des comédiens, des liens affectifs qui se créent avec certains comédiens. Donc là je vous disais il y en a une dizaine, une quinzaine avec qui on travaille régulièrement.
Oui.
Et ça va, ça vient, ils vont travailler ailleurs, ils reviennent, ils font leur vie. Mmh. Et c'est plutôt un lien de fidélité que vraiment formalisé en troupe constituée.
Je comprends.
Mais effectivement il y a des
mais c'est
des
compliqué
régularités.
Du coup hein, c'est compliqué parce
pour les
que
plannings,
on
oui.
fait partie voilà de la troupe pour une représentation ou pour une création, et puis après c'est pour eux, je pense que c'est difficile.
Alors,
non,
c'est difficile, et en même temps c'est assez souhaitable, parce que déjà nous on peut pas leur assurer une intermittence, on peut pas leur assurer leur salaire pour l'année, on n'a pas les moyens.
Oui, oui.
Et puis au niveau richesse, c'est intéressant aussi pour eux de pouvoir travailler ailleurs.
Oui.
C'est intéressant pour nous de pas dire c'est uniquement avec nous que vous travaillez. Et eux, ça leur permet aussi de créer leur réseau, c'est-à-dire que si nous on les cantonnait chez nous, si jamais on travaillait plus avec eux, ils auraient plus de boulot.
Exactement.
Donc voilà,
c'est
ça
aussi
permet,
une ouverture.
Voilà,
je comprends.
Et artistique, et aussi pour eux financière et pour leur réseau. Quoi.
Alors j'ai relevé une belle définition de vos objectifs. Donc vous voulez créer des rencontres sur le territoire, vous utilisez l'humour, là j'ai été témoin de vos créations qui sont très drôles et puis en même temps percutantes, hein. Et vous voulez mettre en lumière, c'est ce que vous expliquiez un peu tout à l'heure Julien, les enjeux politiques et environnementaux. Alors expliquez-nous un tout petit peu, ben, Julien ou Élodie, votre démarche.
La démarche, globalement, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai l'impression que on a le sentiment collectif de se diriger vers une sorte de fin annoncée de l'humanité.
Je voulais être un petit peu plus précise. Donc,
je pars du très large pour aller au spécifique.
D'accord.
Mais à l'intérieur de ça, il faut savoir comment on prend conscience d'un certain nombre de choses, quelles sont les dynamiques à l'œuvre.
C'est
et
ça.
Moi, je prends une question politique, une question sociologique. Donc, par exemple, dans les méritants, c'est la question du discours méritocratique à l'œuvre, mais aussi de l'idéologie néolibérale quand elle est à l'œuvre, etc. Et puis, je la place dans un contexte. Dans le contexte de mes histoires qui sont souvent liées à la science-fiction ou l'anticipation, et comment je repose ces questions-là en les plaçant dans un contexte différent. Donc ça donne des histoires où on reconnaît vraiment très bien notre société du moment, et puis les dynamiques à l'œuvre, les inégalités qui se construisent, par quel discours, comment ça se met en place, mais dans un contexte totalement différent. Là, pour le coup, les méritants, c'est vraiment l'histoire d'une société qui va se reconstruire avec des hommes et des zombies. Tous ensemble, on va devoir vivre ensemble, et une société qui se dit parfaitement égalitaire.
Oui.
Et on va voir comment finalement c'est une société qui se reconstruit petit à petit à deux vitesses, avec un plafond de verre pour ses pauvres zombies qui seront cantonnés
on voit bien
le balai.
Voilà, on voit bien de qui vous parlez finalement. Et oui. Alors, trois pôles de création, c'est ça que je voulais que vous définissiez, peut-être Élodie ou Julien. Donc, les créations de plateau. Élodie, vous
voulez
nous
effectivement, les créations de plateau. La dernière grosse création, c'était Syndrome U, qu'on a créé en 2017. La prochaine sera donc Les Méritants, qu'on va créer en novembre 2023.
Oui.
On est actuellement en recherche de coproduction et de financement et puis de préachat. On a les créations dites itinérantes, ce qui permet au public qui n'a pas forcément encore en vie ou qui ne connaît pas vraiment les théâtres, qui ont peur d'aller au théâtre, et ben nous on va à la rencontre des gens en faisant déplacer nos créations dans des petits villages, des petites villes, dans des maisons de retraite, en prison, à l'hôpital, etc. Donc ça c'est des petites créations qui peuvent se tourner partout, donc type Les Brèves du Futur, et puis la prochaine qu'on fera en 2024. Et on a aussi un autre pan de la compagnie, c'est Les projets de territoire, oui. Et là pour le coup c'est Immersion, qu'on a déjà fait donc une version en 2021 dans le Vexin avec le Pivot. Et donc là ce sont des artistes qui investissent un territoire et on passe chaque artiste passe 5 jours en immersion avec des acteurs du milieu dans lequel on va évoluer. Donc par exemple on a passé 5 jours avec des gardiens d'immeubles HLM ou 5 jours avec une agricultrice laitière, etc. Et à l'issue de ces 5 jours, les artistes chacun doivent écrire une fiction courte. Et donc on dit bien une fiction, hein, c'est pas un reportage.
Oui. Donc, même si ça y ressemble, hein, quand même.
Ah, oui, alors on peut trouver des choses, mais c'est une fiction.
Oui.
On raconte pas la vie de la personne.
Voilà, vous avez
on
du recul.
Pas son nom,
bien
etc.
Sûr.
On n'a pas, on fait pas référence à des histoires vraies en tout cas. Ce qui permet d'ailleurs aux gens de se livrer sans aucune peur.
Oui.
C'est au départ les gens ils disent mais moi j'ai rien à dire ou j'ai pas envie que ça se retrouve, etc.
Exactement.
Donc on dit non, attention, on va créer une fiction à partir de vos problématiques.
Oui.
Et donc voilà, donc ces fictions après sont écrites, après elles sont répétées en 5 jours, hein, donc c'est très très court, hein, fait 5 ou 6 fictions à répéter en une semaine. Et ensuite elles sont jouées dans les lieux d'immersion, donc par exemple elles vont être jouées dans la cour d'un immeuble HLM, dans l'exploitation agricole.
Au poste de police,
là récemment on a fait à Saint-Denis.
Dans un club de foot.
Voilà, exactement. Et puis à l'issue de cette semaine où toutes ces petites formes ont eu lieu donc dans les lieux d'immersion. Après, on fait un gros regroupement de toutes ces formes, donc dans un lieu fort. Donc, dans le Vexin, c'était au château de la Roche-Guyon.
Ah, oui.
À Saint-Denis, c'était au théâtre Gérard Philippe. Mm-hmm. On l'a fait aussi à Herblay dans un lycée, où là, c'était dans le lycée. Et puis après, au théâtre Roger Barra.
Oui.
Voilà. Et donc,
on fait
ça en itinérance. Ouais.
D'accord. Bon, ben ça, ce sont des projets, moi, que j'aime infiniment parce que les habitants d'un endroit vont participer volontairement à ce projet, vous dénoncer beaucoup dans vos petites fictions, avec beaucoup, beaucoup d'humour. Hein, on passe un excellent moment et en même temps, eh bien, ça nous fait bien réfléchir. Et ça, c'est très important. Alors, votre tournée 2022-2023, c'est les brèves du futur dans toute la France. Est-ce qu'il y a quelques dates en région parisienne, s'il vous plaît?
Eh bien, non.
Oh.
Non, pas. En fait,
il me semble que j'en avais relevé une, moi.
En région parisienne, il n'est pas impossible qu'il y ait des dates qui se greffent là en cours de saison.
Oui.
Là, pour l'instant, dans celles qui sont organisées, c'est pas en Île-de-France.
Non, il y en avait l'année dernière, la saison passée, oui.
Voilà, il n'est pas impossible qu'il y en ait qui se mettent en place dans le Val d'Oise, peut-être, ou du côté de Mantes-la-Jolie.
Non, mais on est prêt à prendre le train, bien sûr.
Mais de toute façon, toutes ces infos-là sont sur le site, et dès qu'il y a des nouveautés, il y a le site de la compagnie qui est réactualisé, et puis le Facebook aussi, et l'Instagram, on est sur les réseaux.
Donc on peut aller chercher. Alors, j'aimerais, avant de terminer tout à fait, que vous nous parliez quand même, Julien, de cette nouvelle création. Vous nous en avez dit 2 mots. Essayez de nous dire comment ça prend forme.
Alors, comment ça prend forme s'il y a ces 7 comédiens?
Oui.
L'histoire, je l'ai rapidement évoquée, ça s'appelle Les Méritants.
Oui.
Et
qui sont donc ces méritants? Qu'est-ce qu'ils méritent?
Justement, c'est toute la question de la méritocratie. C'est comment le discours sur le mérite peut se construire en occultant parfois un certain nombre de facteurs la couleur de peau, le genre, que peuvent être les origines sociales, la classe, et sous prétexte de mérite ou de qualité du travail, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être limitants, excluants, qui peuvent donner l'impression à certaines personnes d'avoir une sorte de plafond de verre.
Ça a l'air d'être énorme, parce que c'est vrai, vous touchez un peu à tout.
Bah, c'est une pièce un peu monde, hein. C'est pour ça que dans cette pièce-là, on recrée un peu, on recrée une société, mais ça passe par le prisme d'une petite communauté de gens communauté politique qui s'appelle le comité, qui dirige cette société-là, cette nouvelle société en reconstruction, et qui essaie de faire au mieux avec, ce qu'ils essaient de reconstruire. Ils essaient de reconstruire l'humanité, et puis ils se retrouvent avec des centaines, des milliers, des millions de zombies à gérer, mm-hmm. Qui finalement sont pas si méchants que ça, mais qu'est-ce qu'on en fait, toute cette force de travail
oui, qui est quand même de cette force de travail. On voit bien que il va y avoir un peu de récupération là-dedans.
C'est orienté, de toute façon, tout ça, c'est orienté effectivement sur l'organisation collective et notamment celle du travail. Donc effectivement, la question du travail sera relativement centrale.
Et puis on suit une figure quand même centrale, c'est celle du transclasse.
Oui.
Voilà, c'est comme ça qu'on va expliquer un peu le discours méritocratique, c'est-à-dire comment on va justifier ce discours-là en suivant le discours d'un zombie qui réussit. Donc si lui réussit, ça va justifier tout ce discours de la méritocratie. Si lui réussit, tout le monde peut réussir, mm-hmm. en fait, oui. en occultant tout le reste.
C'est quand même un vœu pieux, mais on peut essayer d'y croire.
C'est comment on justifie la règle par son exception, en fait.
Oui, c'est ça. C'est
voilà.
Ça.
Et c'est toute la subtilité de ce discours-là.
Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que toutes les immersions, et je pense que la réponse, ça va être oui, toutes les immersions que vous avez faites, vous en avez fait plusieurs, il y avait à Gennevilliers, enfin, dans des endroits qui ne sont pas forcément des endroits pourvus, des endroits où il est facile de vivre. Est-ce que toutes ces immersions vous ont donné des idées pour cette nouvelle création?
Alors, on me pose souvent la question, des idées à proprement parler, c'est pas des idées d'écriture très très concrètes. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que ça fait découvrir des choses qu'on pourrait pas découvrir autrement.
Oui,
des problématiques,
une réalité quand même.
Une réalité sociale, une réalité politique, une réalité de terrain qu'on pourrait pas découvrir autrement. Et je pense que ça complexifie notre regard sur la question de politique commune, que toutes les questions qu'on se pose du vivre ensemble. Il se tisse quelque chose. C'est vrai que quand on suit une gardienne de HLM et puis qu'après on suit la directrice générale des services de Saint-Denis et puis qu'on est au contact du cabinet du maire, mmh. on voit des questions d'ordre politique général confrontées à des problématiques de terrain. Tout ça se tisse et nous permet de complexifier un peu notre regard sur le monde.
Oui.
Et je pense que c'est ça qu'on réinsuffle après dans nos pièces, si vous voulez, cette
Donc complexité-là. Donc ça sera une pièce qui sera jouée par des comédiens dans un théâtre. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que je m'avance un peu?
Jusque-là, oui.
C'est bon.
Jusque-là, c'est bon.
Ouais. Bon, d'accord. Alors quand? C'est un peu difficile à dire.
Alors, si a priori, ce sera en novembre 2023
du
au Collectif
12. Du côté du 23-24 novembre au Collectif 12. Et là, d'accord. on fait une lecture professionnelle, mais ouverte à tous, le 23 septembre 2022 à la SACD à midi. Et ça dure 30 minutes.
Eh ben voilà. Voilà, c'est ça. Très, très
c'est pas
bien.
Une représentation, c'est une présentation du projet, du
avec,
futur projet.
Avec des moments de lecture.
Ah, bah c'est parfait, ça c'est très très bien. Eh bien, et vous avez une petite idée pour Avignon 2023 ou pas? Vous serez en pleine création, ça sera compliqué peut-être.
C'est en réflexion.
C'est en réflexion. Bon, on n'aura pas eu de grosses certitudes, mais on aura eu beaucoup d'idées. Eh bien, il me reste à vous remercier infiniment, Élodie Von Hoff et Julien Guillaumard. Et puis vraiment, je vous souhaite une bonne route sur ces idées que vous avez et qui nous remuent un peu en nous faisant sourire.
Hein. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous nous quittons jusqu'en novembre, où j'aurai le plaisir de vous emmener tout près d'ici, à Argenteuil, pour une visite originale de cette ville qui, j'espère, éclairera bien notre hiver. À bientôt et prenons soin des autres et de nous.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.